Philanthropos, un module bioéthique et anthropologie animé par Jean-Frédéric Poisson. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Frédéric Poisson, vous êtes marié, vous êtes docteur en philosophie à l'Université Paris-Sorbonne. Vous avez fait une thèse, vous, sur la question de la bioéthique, donc vraiment le thème du module. Vous avez différents engagements, notamment vous êtes chef d'une entreprise, une société de conseil aux entreprises. Vous avez des engagements politiques aussi. Vous avez été l'ancien directeur de cabinet de Christine Boutin pendant 10 ans. Et puis vous êtes élu, vous êtes maire de la ville de Rambouillet en France. Vous avez aussi participé à la fondation de l'Alliance pour les droits de la vie, donc qui s'est illustrée à plusieurs reprises dans la défense de la vie à chacune de ses extrémités. Alors c'est un peu dans ce cadre-là et avec ces différentes casquettes et ces différentes expériences que vous venez nous parler d'une manière un peu philosophique, mais aussi en tant que praticien, de cette grande question de la bioéthique. Alors un terme très à la mode, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot? Est-ce que c'est une science?
Ce qui se cache derrière ce mot, c'est d'abord une formidable ambiguïté, puisque à la fois on se rend bien compte que les hommes de la deuxième moitié du XXe siècle ont dû apprendre et se rendre compte que finalement leur destinée était complètement entre leurs mains. La planète est en danger, c'est ce que disent un certain nombre d'écologistes. La nature humaine n'attend qu'une chose, c'est d'être refaite grâce au génie génétique. C'est le rêve que nous présentent en tout cas un certain nombre de généticiens et de biologistes. On se demande quel sort sera demain celui des embryons qui sont congelés. On se demande si jamais on termine grabataire sur un lit d'hôpital, ce qui va bien pouvoir nous arriver, si on sera euthanasié, si on demandera l'avis de nos proches, si on pourra avoir un mot à dire sur les choses qui nous concernent. On voit des choses pas très belles dans ce monde moderne, c'est vrai, comme par exemple en Inde ou au Brésil, des gens qui proposent un emploi contre le don d'un rein ou bien d'une rétine ou bien des choses comme ça. Enfin, donc toutes ces questions du rapport entre l'homme et la planète ou entre l'homme et la vie en général, que ça soit la vie humaine ou la vie des autres êtres vivants, est devenue cruciale à la deuxième moitié du XXe siècle. Et donc un certain nombre de personnes se sont emparées de cette réflexion en disant, ben, puisque cette situation est nouvelle, puisque les circonstances sont graves, il faut inventer une nouvelle discipline qui nous permette de penser cette relation. C'est comme ça qu'est née la bioéthique. Le problème, c'est qu'elle est d'un statut épistémologique un peu incertain. On ne sait pas très bien quelle est sa méthode. Personne n'est d'accord sur le point de savoir quel est son objet précis. On ne sait pas très bien où elle se traite. Est-ce que c'est dans les comités? Est-ce que c'est au Parlement? Est-ce que c'est chez les médecins? Est-ce que c'est chez les juristes? Est-ce que c'est en philosophie? Est-ce que c'est en théologie? On sait plus. Ou bien partout, dans tous ces endroits à la fois. Donc c'est une discipline un peu incertaine. À un point près, en lisant attentivement Evangelium Vitae de notre ancien pape Jean-Paul II, on lira que, en deux endroits, le mot bioéthique est utilisé. Il est utilisé dans un premier endroit pour manifester, constater que cette réflexion prend de l'ampleur et qu'elle fait partie des données du temps et qu'elle doit être intégrée comme une des réflexions sur la vie humaine d'aujourd'hui. Ça, c'est au début de l'encyclique. Et à la fin de l'encyclique, dans ses exhortations, le pape Jean-Paul II nous dit il faut que les chrétiens entrent dans les cercles de réflexion bioéthique, parce que même si on ne sait pas très bien ce que c'est, même si c'est pas très bien bordé cette affaire, même si on ne sait pas très bien comment ça marche, qui s'en occupe, s'il y a des autorités ou pas, il faut entrer dans les lieux où la réflexion se fait, parce que malgré tout, c'est quand même dans le giron de cette bioéthique-là, même si elle est incertaine, encore une fois un peu confuse, que se préparent les textes de loi, que se préparent les décisions. Donc c'est à la fois très ambigu, c'est vrai, mais très urgent et très important.
Alors on a jeté la morale, on a maintenant sorti l'éthique qu'on met à toutes les sauces, on la met aussi à la sauce bioéthique. Il y a une différence entre les deux?
Il y a une différence, oui et non. J'ai cru pendant assez longtemps que c'était simplement un jeu de mots. Puisque, comment dire, la morale est au latin, ce que l'éthique est au grec. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la même chose. Mais l'un des mots provient d'une racine latine et l'autre provient d'une racine hellénique. C'est la seule différence. Mais les philosophes modernes ont voulu en manifester que il y avait d'un côté ce qui relevait de la morale, c'est-à-dire ce qui pouvait être issu d'un ensemble de règles ou de commandements universels, du haut vers le bas, en quelque sorte. Et puis il y avait aussi une réalité qui est les mœurs, les habitudes d'une société, la façon dont les corps sociaux se régulent presque spontanément. Et ça, ça allait du bas vers le haut. Donc ce double mouvement du haut vers le bas d'un côté et du bas vers le haut de l'autre côté, l'ensemble des deux, ça fait la sphère de l'agir humain, bien entendu. Les modernes ont considéré que du haut vers le bas, ça s'appelait morale, et du bas vers le haut, ça s'appelle éthique. Bon, alors on peut reconnaître que cette distinction existe. D'ailleurs, les Grecs eux-mêmes considéraient que dans le mot ethos, il y avait deux manières de l'orthographier, donc il y avait ces deux dimensions qui étaient déjà présentes. C'est une vieille réflexion. Je crois que le monde moderne à distinguer les deux, sans doute pour mieux s'affranchir du premier. C'est-à-dire que, de la même manière que, comme je dis de temps en temps, pour comprendre la différence qu'il y a entre la morale et l'éthique, il faut se rendre compte que les voleurs ont une éthique mais n'ont pas de morale. Car quel que soit le corps social, ou l'organisation, le groupe dans lequel on se trouve, on a besoin d'une régulation des relations à l'intérieur de ce groupe, ça relève de l'éthique, mais que cette régulation soit rattachée ou pas à des commandements universels et objectifs, c'est là qu'entre ou non, dans la régulation en question, la dimension morale où elle n'entre pas. Donc on peut parfaitement avoir une éthique sans avoir de morale. On peut d'une certaine manière aussi avoir une morale sans avoir d'éthique. Le mieux, c'est d'avoir les deux. Je crains que le monde moderne ait beaucoup appuyé sur les modalités de régulation et un petit peu ignoré quand même toute la dimension du commandement.
Donc si je reprends vos termes, une éthique sans morale, c'est quoi? C'est le consensus?
Une éthique sans morale, c'est soit le consensus, soit une espèce de pragmatisme très concret, très très efficace, on va dire. Ça peut être soit effectivement la volonté de rechercher l'accord des consciences, et c'est légitime, après tout, qu'est une société et comment fonctionne une société dans laquelle les consciences ne sont d'accord sur rien. Finalement, on sait bien que, même dans la philosophie politique classique, la concorde, c'est-à-dire l'accord des cœurs sur la manière de vivre, sur le bien commun, est un élément très très important. L'amitié politique, pour parler comme Aristote, c'est quelque chose qui existe. Mais quand elle est déconnectée, effectivement, des exigences morales universelles, cette fois-ci, qui sont issues de la nature humaine, eh bien, on peut être soit dans le consensus, la plupart du temps on dit consensus mou, ça dit bien ce que ça veut dire, on se demande s'il peut être autre chose que mou, ou alors ça peut être effectivement une certaine forme de prime à l'efficacité pratique, c'est-à-dire qu'on demande à un groupe ou une organisation d'atteindre un objectif, indépendamment de la nature ou de la valeur morale plutôt de cet objectif. Alors ça peut être les deux travers d'une éthique qui se débarrasserait de la morale, oui.
Alors est-ce qu'il y a une bioéthique valide, du coup, dans ce contexte?
Il peut y avoir une bioéthique valide au sens où, même si c'est une activité de l'esprit dont le statut est un peu incertain, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'en reste pas moins qu'il y a une manière nouvelle d'aborder ces problèmes qui doit avoir droit de cité, c'est-à-dire que on voit bien que, par exemple, la question de l'euthanasie active, qui est un des champs d'action et un des champs de réflexion privilégiés de la bioéthique, particulièrement ces temps-ci, doit inclure la dimension du droit, la dimension de la philosophie, la dimension de la psychologie, la dimension de la sociologie, la dimension de la médecine, la dimension des soins, beaucoup de dimensions qu'une seule des disciplines ne peut pas maîtriser à elle seule. Donc cette volonté de faire travailler ensemble des gens qui sont issus d'univers différents pour prendre des décisions qui sont très compliquées et sur la forme et sur le fond et dont les enjeux sont rien moins que la vie d'une personne humaine, excusez du peu, ça, cette démarche est légitime. Donc cette volonté de faire fonctionner plusieurs disciplines ensemble pour parvenir à une décision, ça c'est possible. Est-ce que pour autant ça constitue une nouvelle discipline? Je pense que non. Parce que je crois qu'à la fin du compte, ça n'est qu'une des modalités de la morale médicale ou de l'éthique médicale. C'est une des branches, à mon sens, de l'éthique médicale. Donc oui, il y a une manière de faire de la bioéthique qui est valide, qui est d'ailleurs celle à laquelle pense le pape Jean-Paul II, à laquelle pense aussi d'ailleurs l'ex-cardinal Ratzinger, aujourd'hui Benoît XVI, qui a écrit quand même beaucoup sur ces sujets aussi, à laquelle pense Mgr Elios Gratia, qui est une des têtes pensantes du Vatican sur ce sujet. C'est cette bioéthique qui se fonde sur la dignité intangible et inconditionnel de toute personne humaine et qui, à partir de là, organise le travail de réflexion, la prise de décision et l'interdisciplinarité nécessaire pour prendre des décisions qui concernent cette personne humaine. Mais le point d'ancrage, c'est la nature humaine. Or, quand on ancre une discipline pratique, ce qui est la bioéthique, sur la nature humaine, ça porte un nom, ça s'appelle de l'éthique, tout simplement.
D'où est-ce que ça vient, ce besoin de réflexion? Il y a des grands progrès techniques. Est-ce que dans l'histoire aussi, il n'y a pas des ruptures?
Alors il est certain que il y a dans l'histoire du XXe siècle, qui a été extrêmement chargée, extrêmement lourde, sous le rapport de l'atteinte à la dignité humaine, c'est vrai dans toute l'histoire des hommes, malheureusement, l'atteinte à la dignité humaine est un apanage de la personne humaine elle-même, malheureusement, donc c'est vieux comme l'histoire de l'homme. Mais c'est vrai que par sa dimension d'abord tout à fait globale, ensuite, par la violence de l'attaque ou des différentes attaques qu'elle a perpétrées contre l'humanité pendant 6 ans, la Deuxième Guerre mondiale est un moment de cristallisation, un moment de rupture intellectuelle dont la violence a favorisé, en tout cas, des ruptures intellectuelles très très fortes par rapport aux systèmes moraux ou éthiques traditionnels, ainsi qu'au système de droit. Quelle violence comparable à celle qu'a subie le peuple juif dans le cadre de l'Holocauste. Quelle violence comparable pour des médecins ou des patients à celle que les médecins nazis ont eux-mêmes organisée dans les camps de concentration ou dans les camps de prisonniers, en utilisant les prisonniers présents comme des cobayes de laboratoire sans aucune espèce de respect pour leur dignité humaine. Quelle violence plus grande aux yeux du peuple du genre humain tout entier que le fait de s'apercevoir en août 45 qu'après avoir bombardé Hiroshima et Nagasaki, bien finalement l'humanité tenait en ses propres mains les moyens de sa destruction. Et comment ne pas imaginer à ce moment-là et dans les années qui ont suivi qu'effectivement c'est produit une forme tout à fait certaine de désespérance par rapport à l'état de l'humanité qui avait permis tout ça, même si tout le monde n'en était pas coupable, même si ça ne reste que l'affaire d'un petit nombre d'hommes en réalité qui ont organisé et voulu toutes ces affaires avec des degrés de responsabilité, etc., différents, mais peu importe, la violence que ça a produit dans les sociétés, en particulier occidentales, a conduit un certain nombre de philosophes, de juristes, de théologiens à s'interroger sur le point de savoir comment des systèmes symboliques qui avaient pu permettre de tels événements pouvaient encore rester en place. Et on a souhaité réfléchir de sorte que, enfin, on prenne en compte que bien, la vie humaine est une chose finalement fragile et que l'éthique ne pouvait pas se permettre se contenter d'organiser la vie présente de gens qui étaient certains d'aller jusqu'au bout de leur existence, entre guillemets, mais qu'il fallait aussi qu'elle se préoccupe finalement de faire en sorte que la vie future soit possible. Et dans cette simple translation de la réflexion depuis un système pour les hommes présents vers un système qui permette la vie des hommes futurs, se trouve finalement toute la translation de la bioéthique. Cette translation-là, elle est permise et facilitée par les trois ruptures dont je parlais tout à l'heure, qui sont issues, à mon sens, de la Deuxième Guerre mondiale.
Donc c'est le changement d'échelle qui a tout changé. C'est-à-dire que tant que les hommes pouvaient se battre avec des armes conventionnelles, on va dire, ça concernait que leur génération, et c'est le fait d'être en face de la destruction potentielle de toute la planète, de conséquences écologiques pour les générations à venir qui change toute la vision.
Ah oui, probablement. La conscience du fait que la Terre est une chose fragile, que la vie humaine n'a rien de nécessaire et qu'un jour viendra où il n'y aura plus de vie humaine dans l'univers. D'ailleurs, un jour viendra où il n'y aura sans doute même plus d'univers du tout. Ça, c'est une vieille certitude de l'humanité. On trouve ça dans les textes classiques et la fameuse phrase de Pascal sur l'homme qui est un roseau le plus faible de la nature mais un roseau pensant. Il y a bien ces deux dimensions, c'est-à-dire qu'il est certes il est rationnel, mais il se connaît fini et il se sait transitoire. Donc finalement, même pour l'espèce humaine comme telle, tout cela est une vieille connaissance, une vieille certitude. Ce qui change, c'est que avec la Deuxième Guerre mondiale, on assiste à la mise en œuvre de moyens de destruction massive. On détruit un peuple, ou en tout cas, on voudrait bien en détruire un. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout de cette démarche, mais les nazis à l'égard du peuple juif. Mais malgré tout, la tentative était là. Et deuxièmement, avec les bombes thermonucléaires et l'énergie atomique, on sait que demain matin, on peut détruire toute forme de présence vivante sur la Terre. Donc c'est à la fois la globalité du phénomène, c'est vrai, mais la découverte d'une puissance presque insoupçonnée de l'homme sur sa propre vie et sur son propre statut, qui ont conduit beaucoup de moralistes et beaucoup de philosophes à s'interroger, oui, sur ce que devaient être les éthiques de ce temps. Parce que précisément, dans les éthiques passées, on ne se posait pas ce genre de questions, parce que le problème ne se posait pas, de fait.
Jean-Frédéric Poisson, vous êtes philosophe. On sent bien que derrière tout le débat de bioéthique, il y a quand même toute la question de définir qu'est-ce que c'est qu'un humain, qu'est-ce que c'est qu'une personne. Où est-ce qu'on en est à ce niveau-là et comment on peut faire évoluer ce débat ?
Alors, il y a certainement peu de réalités du monde d'aujourd'hui qui soient autant questionnées ou autant discutées que la réalité de la personne humaine et de sa dignité. Il y a beaucoup d'interrogations, de remises en cause de la valeur humaine, que ce soit par indirectement par le biais de tout ce qui concerne le début ou la fin de sa vie. La question du statut de l'embryon, la question des malades en fin de vie pose la même question, c'est-à-dire à partir de quand est-ce qu'on commence à être un être humain, une personne humaine digne de respect et protégée à ce titre par le droit et par l'éthique, et à partir de quand ça s'arrête ? Et entre les deux, qu'est-ce qui se passe ? Alors, la grande tentation des sociétés en général, c'est de ne pas respecter l'ensemble, la totalité de la chaîne. Il y a un vocabulaire qu'on connaît bien, qui est celui de l'Église, finalement, qui dit Il faut protéger l'homme depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle. En une phrase, tout est dit. Mais on en trouve de plus en plus qui, d'abord, sur le fait de protéger l'homme plus que les animaux, les arbres ou les cailloux, sont plus qu'interrogatifs, et même ils disent plutôt le contraire. Il y en a qui vont jusqu'à dire que pour bien protéger les arbres, les animaux et les cailloux, il faudrait réduire le nombre d'hommes sur la Terre. Sur le fait qu'il faille le protéger dès la conception, malheureusement, un certain nombre de législations dans le monde occidental sur la pratique de l'avortement ont bien vu que depuis la conception, ça n'est pas acquis du tout. Sa mort naturelle, ma foi, les débats actuels sur l'euthanasie montrent qu'on a envie de renier quand même là aussi, du côté de la fin de la vie, le temps de la protection, parce que finalement, on a quand même très envie de considérer que quand on est un décideur, un législateur ou une personne bien portante, finalement, on aime bien que soient considérés comme humains ceux qui nous ressemblent. Ça va plus vite. C'est plus facile. C'est plus défendable. Ça s'argumente mieux. Ça se voit plus, et ainsi de suite. Donc, il y a une grande tentation à dire finalement « est-homme ce qui est comme moi ». Mais quand on est capable de dire « est-homme ce qui est comme moi », ça veut dire qu'on est soi-même suffisamment développé, suffisamment en possession de ses propres facultés, suffisamment instruit, suffisamment en forme et en bonne santé pour être capable de le dire. Mais vous voyez bien que si on limite l'expression de la personnalité de l'humanité et les protections qui leur sont dues à simplement l'expression adulte de la personne humaine, il y a tout un tas de gens qui vont devoir sortir, entre guillemets, des systèmes de protection du droit et de l'éthique. C'est contre ça qu'il faut se bagarrer, c'est-à-dire faire reconnaître qu'à partir du moment où on est en présence d'un être humain, quel que soit le stade de son développement, son âge, son état, sa couleur de peau, ses conditions de vie, ses croyances, sa capacité de performance, même s'il court pas le 100 mètres en moins de 18 secondes, etc., cet être-là doit être l'objet de toutes les protections du droit. Toutes, sans exception, sans restriction et sans condition. Dès qu'on sort de là, alors la porte est ouverte à toutes les formes de discrimination, objectives ou pas, et on commence par l'embryon qui a moins de 14 jours, on continue par le grabataire qui a plus de 6 jours de coma. Ensuite, on va aller vers les gens qui ont une jambe en moins, ceux qui ont un chromosome de plus, et puis ensuite, et ça n'a pas de limite. Donc il faut faire très attention. Je pense que le devoir aujourd'hui des philosophes, qu'ils soient réalistes ou pas, et des croyants, qu'ils soient chrétiens ou pas, le devoir de tous les hommes du reste, c'est de manifester par leur engagement, par leurs propos, qu'il ne peut pas y avoir d'autre manière de protéger l'être humain que depuis le moment où il commence à être un être humain, jusqu'au moment où ça se finit naturellement. En dehors de ça, ben, on entre dans tous les systèmes horribles auxquels on a pu assister ces derniers temps.
Alors il y a quand même un certain nombre de philosophies justement qui veulent renier la notion de nature humaine et donc qui vont vous répondre à tout ce que vous venez de nous dire, mais ça c'est votre opinion. Qu'est-ce qu'on peut répondre en face ?
On peut répondre que certes, on peut considérer que c'est une opinion, c'est vrai d'ailleurs. Ça c'est pas contestable. La question est de savoir ce qu'on a envie d'en faire. C'est-à-dire, est-il vrai de dire que toutes les opinions sont également valables, ont également de valeur pour l'organisation sociale et pour l'organisation de la vie des hommes entre eux ? Eh bien, je crois que non. Et je dirais même plus, comme disent les Dupont dans Tintin, on ne défend jamais une conception de la personne ou de l'homme qu'en regard de l'image qu'on se fait de la façon dont les hommes doivent vivre ensemble. C'est toujours au nom d'une certaine forme du vivre ensemble qu'on défend ou qu'on endosse une conception ou l'autre de la personne humaine. Et donc, la question qui est posée, c'est est-ce que toutes les opinions sur la personne humaine sont également capables d'organiser la vie des hommes entre eux ? Pour autant qu'on les respecte de manière chimiquement pure, c'est une autre affaire, mais enfin, en tout cas, en termes d'inspiration, on peut essayer de regarder. À cette question, la réponse est objectivement non. Non. Il y a des exemples historiques, encore une fois, il suffit de se retourner, et d'ailleurs pas très très loin, ou de regarder de l'autre côté du globe en ce moment pour se rendre compte que bien, il y a des systèmes, il y a des philosophies qui mettent en œuvre une conception de la société, issue elle-même d'une vision de la personne humaine, qui ne sont pas capables de rendre l'homme heureux. Donc le tout est de savoir ce qu'on cherche. Si c'est simplement de gagner un combat d'opinion l'une contre l'autre ou l'une contre plusieurs, alors effectivement, on peut continuer de se bagarrer longtemps. Si c'est simplement de trouver la meilleure manière d'organiser la vie des hommes entre eux, à l'échelle du monde cette fois-ci, plus simplement à l'échelle d'un continent ou d'un pays, la question est vraiment posée de savoir comment évaluer ces différentes conceptions de l'homme. C'est la question de l'évaluation qui pose problème. Et toutes les opinions n'ont pas la même valeur.
Jean-Frédéric Poisson, vous êtes engagé en politique. les lois évoluent sans arrêt, on en vote de nouvelles, elles deviennent de plus en plus permissives, protègent de moins en moins justement la personne humaine d'un bout jusqu'à l'autre de sa vie. Vous êtes optimiste, pessimiste, comment vous vous situez dans le contexte d'aujourd'hui d'une manière réaliste, j'allais dire?
D'abord, je constate, comme beaucoup de mes collègues élus et comme l'ensemble comme tout le monde, j'allais dire de mes concitoyens, mais c'est pas vrai qu'en France, malgré tout, il y a tous les jours des choses absolument formidables qui sont faites. C'est vrai que les lois sont permissives dans leur inspiration, en tout cas souvent. C'est vrai qu'on aimerait qu'elles soient un peu mieux écrites, un peu plus protectrices, un peu plus respectueuses de la réalité humaine. Tout ça est juste. Mais en même temps, on voit aussi des lois qui sont faites pour protéger les hommes. On voit des lois qui donnent accès aux soins, on voit des lois qui permettent la prise en charge de malades qui sont très atteints, de gens qui sont en situation de faiblesse insigne. Je pense aux toxicomanes, je pense aux alcooliques, je pense à toutes les lois qui protègent les prisonniers, par exemple, etc. Donc tout n'est pas noir. Et c'est vrai qu'un regard un peu rapide sur le monde moderne pourrait dire finalement, qu'est-ce que c'est que ce monde qui va à volo, il n'y a plus rien à y faire, on plie les gaules et on rentre, comme disent les pêcheurs à la ligne du dimanche midi, si vous voulez. Mais je crois que non. Je pense qu'il y a des choses absolument formidables qui sont faites tous les jours. Et dans un certain nombre de pays, notamment occidentaux, la France est celui que je connais le mieux et pour cause, je pense que si nous ne sommes pas dans un état, dans une phase pré-révolutionnaire, c'est parce que précisément, tous les jours, il y a des gens qui se lèvent en ayant le souci de venir en aide à leurs prochains. Alors ils le font avec les catégories morales qui sont les leurs, avec les convictions qui sont les leurs, religieuses ou pas. Ils peuvent être croyants, pas croyants, réalistes, pas réalistes, peuvent être ce qu'ils veulent. La réalité, c'est que je pense qu'à la fin du compte, mais ça c'est le croyant qui parle, c'est plus le responsable politique, je pense que le bon Dieu fait bien son affaire de tout ça. Et c'est lui qui comptera à la fin, c'est pas moi. Donc il doit constater que derrière des divergences d'opinion parfois extrêmement marquées, qui peuvent prendre la forme d'affrontements très violents, il y a des sources, des mines, des richesses de développement incroyables dans tous les pays, et que c'est ça qu'il faut regarder aussi, c'est ça qu'il faut essayer d'aider. À la fin du compte, vous savez, là c'est un Français qui parle pour le coup, les lois, finalement, elles disent bien ce qu'elles veulent. Ça n'empêche pas un certain nombre de gens de faire ce qu'ils croient devoir faire. C'est vrai que c'est beaucoup mieux lorsque l'ordre symbolique est mieux en harmonie avec le corps social ou lorsqu'il favorise des comportements vertueux et des regards qui sont un peu plus respectueux des hommes. C'est beaucoup mieux. Ça n'est pas le cas. Ben, il y a deux choses à faire. La première, c'est de s'armer pour que partout où on doit aller argumenter, discuter et aider les gens à prendre des décisions, ben, on y aille. Et Philanthropos, c'est un des lieux où on apprend précisément ce genre d'argumentaire. Donc on prépare les gens à exercer des responsabilités dans un certain esprit, qui est celui du respect de la personne. Et puis la deuxième chose à faire, c'est de soutenir, de participer à ces actions, qu'elles soient politiques, sociales, associatives, caritatives, médicales, sanitaires, humanitaires, j'en sais rien, il y en a à plus savoir les mettre, éducatives, bon, de participer à tout ça pour ce que le peu de cohésion sociale et la cohésion sociale qu'on peut mettre dans ce monde qui par ailleurs perd petit à petit, c'est vrai, un certain nombre de ses références anciennes, bien ma foi que par ailleurs la cohésion sociale se perpétue malgré tout. Donc il y a du travail et c'est bien.
Jean-Frédéric Poisson, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté d'animer ce module bioéthique et anthropologie à Philanthropos.
Merci.